Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans cette émission Au fil des pages. Je voudrais commencer par vous donner une citation. S'il ne manque pas d'un certain ridicule à écrire un livre sur Venise, le risque en est compensé par le plaisir qu'il y a à le courir. C'est du reste le sentiment de plus d'un, et je n'en veux pour preuve que les nombreux ouvrages qui ont Venise pour sujet ou pour cadre. On en formerait une bibliothèque à laquelle ont contribué la poésie et le roman, aussi bien que l'histoire et l'érudition. Le puissant et magique attrait qu'a exercé la ville incomparable diminue le péril d'y céder à son tour. Ces phrases que je viens de vous lire sont celles d'Henri de Régnier, grand amoureux de Venise, et elles figurent en exergue du livre de Bertrand Gallimard Flavigny qui vient à son tour de publier « Lettres de Venise ». Ces deux ouvrages, celui de mon invité et celui d'Henri de Régnier intitulé « Récits vénitiens » sont parus chez le même éditeur, La Bibliothèque, dans la collection « L'écrivain voyageur ». Bonjour Bertrand.
Bonjour Hélène.
Merci d'être venu avec nous dans notre studio. Vous avez l'habitude de ce studio, vous animez la rubrique de bibliophilie et aussi la rubrique objets d'art, mais cette fois nous allons parler de Venise. Alors je dois ajouter que vous avez rédigé la postface des récits vénitiens d'Henri de Régnier, lequel, rappelons-le, était membre de l'Académie française. Il avait été élu en 1911 au fauteuil 39 en succédant à Melchior de Vogüé. Vous êtes très lié à Henri de Régnier, il compte dans vos auteurs familiers.
D'abord, il est normand, donc je suis normand par ma mère. Donc
ça fait déjà quelque chose
pour commencer. Ensuite, oui, je l'aime beaucoup grâce aux récits vénitiens parce que j'étais tombé, c'est le cas de le dire, sur Les Histoires Incertaines, qui est un recueil de nouvelles un peu fantastiques, consacrées à Venise il y a des années. Il me semble que c'était Simone Gallimard qui m'avait passé le livre qui avait été publié au Mercure en 1910 ou 1909. Donc c'était un joli cadeau et je m'étais toujours dit il faudrait le republier. Et puis j'ai réussi. Donc, bien plus tard, quand je suis allé à Venise, j'ai téléphoné à Henri Dernier, qui était un homme charmant, comme vous le savez, et qui m'a conseillé d'aller à Venise, en disant, même scandalisé que je ne sois point allé jusqu'à présent, parce qu'il y est allé au moins 16 ou 17 fois. Il était heureux là-bas. Et donc, j'ai réussi à publier l'un des contes des Histoires Incertaines, plus un second conte, avec cet éditeur, Jacques Damade, qui, bien plus tard, me dit, au fait, Venise, c'est pas mal, tu m'en fais 160 000 signes.
Ah bon, ça c'est la commande de l'éditeur.
C'était la commande de l'éditeur parce que j'avais beaucoup écrit, j'écris beaucoup sur mes voyages, j'avais écrit sur l'Italie et il me dit « mais tu sais, Venise ». Et je dis « mais Venise, tout le monde a écrit sur
tout
Venise ».
Tout le monde a écrit sur Venise.
Je vais quand même pas m'y mettre moi aussi sur Venise. J'avais une sorte de pudeur qui venait et puis un jour je me suis jeté dans la lagune pour faire une expression assez simple. J'ai bu de l'encre de la lagune et puis j'y suis allé avec, j'avoue, un plaisir infini.
Alors, dès la première page de vos lettres de Venise, et je précise qu'il y en a 32, vous expliquez, et c'est là que je trouve que vous faites un léger petit mensonge, « J'arrive vierge à Venise, avec l'impression de la connaître. J'ai, avant de partir, laissé ma bibliothèque vénitienne, bien rangée dans ses rayonnages, décidé à les oublier, et désireux de m'approprier à mon tour la cité des doges. » Et tout de même, vous ajoutez « Il m'est impossible, malgré tous mes efforts, de les négliger. Ils reviennent sans cesse à la charge. » Alors, quels sont les auteurs qui reviennent à la charge?
Alors, oui, c'est vrai que j'ai menti pour la première partie de la phrase.
Et mais puis, après, vous êtes rattrapé.
Après, je me suis rattrapé, d'abord, parce que je ne peux pas emporter tous les livres de Venise dans ma besace. Et je me suis dit, j'ai choisi deux guides. Donc, comme je vous ai dit, j'ai téléphoné Henri Dernier. Et j'avais le mail de Paul Morand, qui aurait adoré, je crois, Internet, Paul Morand, s'il l'avait connu.
Oui,
il aurait adoré, parce qu'il était très curieux de toute chose, et puis il fallait que ça soit effectivement rapide. Et je me suis dit, je les prends ces deux-là, je demande de m'accompagner. Alors j'ai commencé par Henri Dernier, parce que c'était un peu plus ancien, c'est l'histoire du club des longues moustaches, c'était la Cadorio, c'était un certain nombre d'éléments, puis il fallait que je me découvre quand même Venise. Et puis un peu plus tard, je me suis retourné vers Paul Morand, qui m'a apporté beaucoup de choses. Alors, il n'a pas seulement donné rendez-vous à Harry's Bar pour boire une bonne boisson, un Spitzer, par exemple, ou un Campari, mais je crois qu'il n'en buvait pas d'ailleurs. ou surtout le risotto à l'encre de sèche. Et à chaque fois, j'avais une sorte de référence. Effectivement, on ne peut pas s'en empêcher. On se promène dans Venise, on se perd, parce que de toute façon, c'est fait pour se perdre. Et on va me reprocher de ne pas avoir mis de carte. Mais si j'aurais mis une carte, on ne serait pas pu se retrouver de toute manière.
Mais un petit plan quand même, pour bon, savoir dans quel quartier on est.
Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Il y a mes homonymes qui ont publié un très bon plan.
Donc ah bah très bien, on va acheter le plan de chez Gallimard. Voilà.
Donc, je fais une petite parenthèse sur Cartoville. C'est qu'en fin de compte, les rues sont tellement courtes, parce que vous avez une rue, puis hop, un tout petit morceau, c'est notre rue.
On n'a
même
pas le temps d'écrire le nom.
Non, alors donc on est un peu perdu. Donc le plan...
Donc on se perd.
On se perd, mais c'est fait pour se perdre. Alors évidemment, au bout d'un certain temps, on sait à peu près où on est. Mais on se perd quand même. Et c'est ce qui fait le charme de Venise. On pense la connaître, mais on ne la connaît jamais. On pense avoir tout lu, on n'a jamais tout lu. On pense connaître toutes les anecdotes, on ne les connaît pas du tout. Il y a quelques jours, j'ai eu la chance de retourner à Venise, invité à un voyage de presse pour préparer une exposition sur Canaletto, donc qui aura lieu au musée Mayol au mois de septembre. Bon, fort de livres publiés, fort de mes voyages à Venise, ça va, j'allais presque faire le guide. Ben non, j'avais quelques éléments, mais c'était tout. Alors le matin, un peu plus tôt, je suis parti essayer de me perdre. Je ne me suis pas perdu, parce que je ne fallait pas aller trop loin. Mais c'est tout cela, c'est à la fois facile à décrire et très difficile à décrire. Quand vous parlez de Venise, aussitôt on vous dit « Ah, j'adore cette ville !» Bon, ah ben oui, mais pourquoi ?
Et c'est un peu. Et là, c'est difficile.
C'est très difficile.
Oui, sûrement.
Et toute personne parle de Venise, a toujours un voyage extraordinaire à Venise. Alors, un tel me racontait que son père faisait un pari et qu'il achetait des billets de tombola et que c'était un peu ridicule, mais qu'il avait fait un pari et que si jamais il gagnait un jour, il emmènerait sa famille à Venise. Et bien, il a gagné. Une seule fois, il a emmené sa famille à Venise. C'est vrai que c'est une jolie histoire. Bon, moi j'en ai eu plein de jolies histoires, je le dis avec beaucoup de fierté et sans aucune modestie, j'ai quitté Venise à bord de la Jeanne d'Arc. C'est quand même très chic.
Quand même très chic, il faut dire que vous êtes officier de marine de réserve.
Donc, certes, voilà. Certes, mais bon, c'était l'occasion parce que la Jeanne est passée deux fois à Venise, il fallait être là au bon moment. Mais c'est quand même joli. Une autre fois, j'ai été invité, j'en parle assez souvent dans mon livre de Gérard-Julien Salvi, et là je vous le recommande parce qu'il a publié il y a quelques années aux éditions du Regard, les carnets vénitiens, qui est en fin de compte un recueil de descriptions de tous les voyageurs à Venise, avec les lieux et les endroits où ils sont allés et les références. L'index comporte 8000 références. C'est extraordinaire. Comme
formidable.
Et donc, j'ai eu la chance d'être invité chez lui. À l'époque, il habitait Campo Santa Margherita. Et je peux vous dire qu'avoir la clé de sa maison de Venise dans la poche, ben c'est un plaisir aussi. C'est pas seulement le fait de traverser le Campo, d'aller prendre au Café di Rosso, d'aller prendre un Campari que vous allez prendre un peu plus tard, une grappa. C'est un plaisir à chaque instant. Alors, les seuls des plaisirs, c'est que de se retrouver entre le Rialto et la Piazza, c'est-à-dire le Saint-Marc, où il y a une foule qui déambule. Mais au mois d'août à Venise, on peut très bien ne voir personne.
Alors justement, Gérard-Julien Salvi, c'est lui qui a fait et rédigé la préface des récits vénitiens d'Henri de Régnier. Vous avez fait la postface, lui il a fait la préface. C'est une préface fort intéressante car elle nous apprend comment Henri de Régnier a découvert Venise, à quelle époque. Donc son premier séjour, c'était septembre-octobre 1899. C'était toute une ambiance à cette époque. Vous avez évoqué ce club des longues moustaches. C'est quoi ce club ?
Ah, le club des longues moustaches, il y avait deux dames très littéraires.
Elles n'avaient pas de longues moustaches, rassurez-moi.
Elles n'avaient pas de longues moustaches, je vous rassure. Tout le monde portait des moustaches, enfin, pas les dames, mais les hommes portaient des moustaches à l'époque, des barbes, ils étaient velus. Enfin bon, c'est une question de goût et c'est une question de mode aussi. Et donc ces dames, je suis en train de chercher le nom, pardonnez-moi, elles publiaient sous un nom masculin parce que c'était beaucoup mieux. Et Comtesse de la Baume louait régulièrement la Cadario, qui se trouve sur le Dosso Duro, près du Grand Canal, et invitait donc ses amis auteurs, et c'est comme ça que Henri de Régnier a pu profiter de cette maison, du jardin qu'il décrivait, et chacun se retrouvait au Café Florian, sous le chinois, parce qu'il y a... Le
café. Oui, il y avait un chinois.
Il y avait un chinois. Alors le chinois, c'est une peinture, sur verre, et donc c'était le rendez-vous, et Morand se moque un peu, parce que lui, enfant, en entendait parler, parce qu'il est un peu plus jeune, pas beaucoup, mais enfin, c'est un peu plus jeune quand même.
7-8 ans, oui.
Oui, et donc moi j'avais essayé de donner rendez-vous aussi sur le chinois, et ben, c'était fermé. La salle était fermée. Alors finalement, j'ai quand même eu un autre rendez-vous, et je suis arrivé trop tard, et puis j'ai vu partir un petit bonhomme un peu voûté, justement avec une longue moustache, et il y avait une enveloppe sur la table sous le chinois, et c'était Henri Dernier qui m'avait écrit. Bon, bien sûr, il ne m'a jamais écrit. Je suis en train de vous raconter plein de mensonges.
Qu'est-ce que vous nous racontez, là ?
C'est ça aussi, Venise. Hein, c'est la fabulation, c'est un plaisir. C'est que quand je vous dis, en plaisantant, j'ai vu Henri Drenier, j'ai vu Paul Morand et j'ai vu...
Croyez que vous les avez vraiment vus.
Mais au fond, j'ai beaucoup d'imagination.
Ils étaient près de vous.
Mais ils m'ont accompagné à chaque fois. Cette lettre de Venise, elle s'adresse à vous, elle s'adresse à l'amoureux, ça s'adresse à mes enfants, parce que mes enfants sont dedans aussi. J'ai voyagé avec eux. On voit souvent ma dernière fille comme on voit les aînés, parce qu'on a participé, cet enfant qui courait à tel endroit. Et quand je retournais une nouvelle fois à Venise, ayant commencé à écrire, je voulais qu'il y ait une sorte d'exactitude. Alors là, je ne cesse de vous mentir. Mais en fin de compte, il y a beaucoup de non-mensonges dans le livre. Quand je parle d'un restaurant, j'y suis effectivement allé, parce que j'essaie de donner un air de véracité.
Voilà, alors les deux livres, les récits vénitiens d'Henri de Régnier et le vôtre, Lettres de Venise, Bertrand Gallimard Flavigny, sont d'un genre très différent. Henri de Régnier, ce sont deux contes, un qui est très long, intitulé L'Entrevue, et l'autre qui est plus bref, intitulé Au Café Quadri.
C'est celui d'en face du Florian.
Voilà, c'est celui en face du Florian, maintenant je me repère. Tandis que vous, ce sont des lettres, 32, et au fond ce sont des scénettes prises sur le vif. Et il y a même des charmants dessins, j'ai remarqué. Vous êtes dessinateur ?
Je suis dessinateur, j'aime bien. Je suis toujours avec une sorte de carnet, de sténo, avec un crayon ou un feutre, donc je n'ai pas de... parfois un pinceau, et j'aime bien croquer quelque chose pris sur le vif, c'est comme les paroles finalement. Et puis, si vous voulez, dessin en plus, si on est dans un café où on s'arrête, on fait un petit dessin, tout de suite il y a un contact avec les gens. Ça je l'ai vu au cours de mes reportages à l'étranger, enfin dans les pays beaucoup plus lointains, j'avais un contact avec les gens, et même quand je mens, parce que je mens aussi dans les dessins, je me souviens en Inde, j'avais dessiné les quais de Bénarès, et puis quelqu'un était, oh oui c'est ça, j'étais complètement dans l'imaginaire. Mais c'était vrai en même temps. Et comme je vous disais, véracité et mensonge, mais je voulais retrouver aussi parce que...
réalité et imagination.
Oui,
plutôt.
C'est tout est frais, tout est vrai, tout est faux. Et je me dis, je parlais de ma dernière fille, je parlais de Diane. Diane lira plus tard, j'espère. Et je pense qu'elle retrouvera. Et quand j'indique qu'elle jouait dans ce restaurant sur des racines qui sortaient, mais j'ai mis un temps fou à la retrouver. Parce que pour se retrouver dans Venise, même si on connaît bien, mais je savais que c'était par là. Mais j'ai retrouvé.
Alors, lorsque vous êtes sur place à Venise, vous notez sur un petit carnet. Alors, vous dessinez, ça, on l'a compris, mais vous notez aussi ou vous écrivez plus tard quand vous rentrez à Paris ?
J'essaie de prendre 3-4 points de repère, des notes, toujours. Parce que la mémoire est formidable, mais comme je vous dis, outre le rêve, il faut qu'il y ait quelque chose de vrai. Si ce que j'ai fait dans la journée, vous parliez de pluie tout à l'heure, eh bien, j'ai subi la pluie à Venise. À Venise, quand il pleut, c'est terrible.
Alors la pluie à Venise, il paraît que, à vous lire, moi j'ai lu ça dans votre page 126, il paraît qu'elle est différente de celle de la Normandie et de celle de la Nouvelle-Angleterre. En quoi est-elle différente à Venise ?
Parce qu'en Normandie, on peut se réfugier dans la maison voisine. En Nouvelle-Angleterre, on sait que ça ne va pas durer. Enfin, ça dure beaucoup, au contraire. Tandis qu'à Venise, quand il pleut, qu'est-ce que vous avez à faire ? Si vous êtes loin de votre hôtel ou votre appartement, ou bien vous attendez pendant des heures dans un café, et encore les cafés, ce n'est pas des cafés comme à Paris, parce que courir, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de métro, et la seule solution de s'échapper, c'est le Vaporetto. Mais le Vaporetto, il est loin. Donc, il m'est arrivé de me retrouver donc, chez moi, mais...
Tremper des pieds à la tête.
Ah, mais il n'y avait rien de sec. Peut-être un petit morceau de ceinture et rien. Et le soir, j'avais un concert à la Fenice. Heureusement, j'avais de quoi me changer. Mais je n'avais absolument rien de sec.
Alors, Bertrand Gallimard Flavigny, juste pour qu'on termine sur une jolie note, cette évocation de Venise, je vais vous demander de lire les quelques premières pages de ce chapitre 12, c'est-à-dire de la lettre 12, puisque ce sont des lettres de Venise qui s'appellent « Un courrier insolite ».
Ah ben c'est justement la lettre que...
Ben voilà, la pseudo-lettre de Régnier.
Alors, sur la table, une enveloppe nous attend. Je vous ai attendu plus que de raison ce soir. Nous étions pourtant bien dit à 5 heures sous le chinois. Vous savez combien je le trouve charmant ce chinois avec sa natte toujours aimable collée dans sa fresque sous un verre protecteur au-dessus de la banquette rouge où depuis mes premières visites à Venise j'ai pris mes habitudes. Il est devenu le lieu de ralliement de tous mes compagnons, ses longues moustaches comme s'est amusé à nous surnommer le jeune Morand. À 5 heures sous le chinois veut dire que l'on se retrouve au Florian. Nous aurions commandé un punch à la Calmers ou bien quelques petits verres de marasquin puisque la grappa est proscrite dans l'établissement comme dans tous les cafés comme il faut de Venise. Oui, je vous espérais, je ne vous cache pas, mais ne vous ferai aucun reproche. Quoique la présence de la charmante Edley au regard si bleu qui vous accompagne m'ait fait ajuster mon monocle afin de mieux en admirer la beauté. Je lui aurais suggéré de se faire servir un excellent café et l'un de ces sorbets désirables que l'on sait composer ici. Voyez-vous, au cours de ce petit soliloque, j'avais l'impression de partager avec le chinois descendu de son cadre cette fin après-midi avec vous et cette jeune femme rousse au teint pâle éclairée par ses yeux bleus. Elle aurait inspiré non pas Pietro Longhi, qui se peignait finalement que des masques dans les salons, mais davantage son fils Alessandro, qui réalisa de délicats portraits confirmant mon attachement au XVIIIe siècle. J'avais osé imaginer que vous m'auriez présenté ce fameux Julien, que vous évoquez sans cesse sans que je parvienne à définir convenablement sa personnalité. Je sais grâce à vos remarques qu'il est toujours d'une élégance discrète, ne néglige pas les vins de qualité, ni parfois quelques alcools plus rudes, justement comme la grappa, que sa table est du meilleur goût, qu'il possède une grande culture et comme la plupart de nos compatriotes qui ont lié domicile dans la cité des Doges, qu'il est plus vénitien que nul autre. J'ai cru deviner qu'il a l'esprit mordant et ainsi je continue jusqu'au moment où finalement il me dit « Il est temps que j'achève ce billet, Mario, le serveur m'a donné une enveloppe dans laquelle je vais glisser ces feuillets que m'avait donné l'occasion de vous consacrer comme si je vivais une nouvelle fois dans mon cher Venise. »
Voilà, c'est pour vous donner une idée du ton des lettres de Bertrand Gallimard-Flavigny sur Venise. Je voudrais aussi ajouter que dans cette collection, la bibliothèque, collection L'écrivain voyageur, il y a, pour ma connaissance, 3 ouvrages sur Venise, les récits vénitiens d'Henri de Régnier, les lettres de Venise de Bertrand Gallimard-Flavigny, et un troisième de Jean Lorrain, qui était un écrivain de la fin du 19e,
début 20e,
voilà, qui s'intitule tout simplement Venise. Et dans cette collection aussi, vous avez publié vous-même, Bertrand Gallimard-Flavigny, un petit livre qui s'intitule « Bibliopholie », puisqu'on sait que la bibliophilie est votre passion et que ça fait l'objet d'une émission sur Canal Académie. Merci de nous avoir emmenés à Venise et emportés dans votre imaginaire.
Oui, nous allons traverser maintenant la Seine en traghetto.
Et sous la pluie. À bientôt.
À bientôt.